France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Censure, suspension, destitution, démission, dissolution, la crise politique est telle qu'elle rend illisible le quotidien, le monde et notre avenir. Alors ce soir, prenons un peu de distance avec la littérature et les textes anciens et un auteur en particulier, Shakespeare, dont l'actualité est forte. En ce moment même, Hamlet et Le Roi Lear sont joués à Paris, mis en scène par Kirill Serebrennikov et Mathieu Koblenz. Alors, que nous enseigne-t-il des crises politiques, ce dramaturge des silences du pouvoir, de la solitude des gouvernants, de la nature même des décisions qu'ils prennent, de l'idée de trahison, de vengeance et de l'irrationalité qui les habite parfois. Alors, pour nous éclairer, ce soir, une invitée, Dominique Guablanquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de littérature élisabéthaine à l'université de Picardie. Vous avez participé à l'ouvrage collectif Shakespeare lointain et proche, paru en 2023 aux éditions Hermann. Et vous êtes l'autrice de cet autre ouvrage intitulé Côté cour, côté justice, Shakespeare et l'invention du droit. C'était chez Classique Garnier en 2016. Et à mes côtés, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et commençons, Dominique Guablanquet, par parler de Shakespeare lui-même. Il écrit dans un contexte politique très particulier, un contexte troublé. Il faut nous en dire un mot, justement, pour bien comprendre ce moment-là.
Il est troublé, et il est troublé depuis très longtemps. L'Angleterre n'est pas tout à fait remise d'une crise politique qui a commencé avec la déposition de Richard II, dont on aura l'occasion de reparler. Et la crise a continué pendant près d'un siècle, qui a vu défiler les derniers Plantagenets qui se sont entretués, littéralement. Et arrive la dynastie Tudor, alors qui arrive... porté par la victoire contre Richard III, mais qui va rencontrer des difficultés aussi du fait qu'ils sont encore moins légitimes que les prédécesseurs. Et pour aggraver les choses, Henri VIII a rompu avec Rome, ce qui fait qu'il s'est coupé du continent catholique et que on redoute non seulement le risque de reprise de guerre civile, il y a eu 30 années de guerre civile, qu'on a appelé ensuite les guerres des Roses, et... à chaque fois, on redoute que ça soit l'occasion, justement, d'une association papiste entre des comploteurs et une possible invasion étrangère. Alors, au moment où Shakespeare arrive, arrive à Londres, commence à écrire, la reine Elisabeth a fini par faire exécuter sa cousine et sa rivale catholique, Marie Stuart. L'invincible armada s'est fait, la flotte espagnole très puissante a été démolie, non pas par la puissance maritime anglaise qui n'existe pas encore vraiment, mais par la tempête. Et donc c'est le sommet de la gloire de la reine, mais on ne respire pas pour autant parce qu'elle n'a pas d'héritier. Or les guerres civiles et les rébellions ont toujours été sur des querelles de succession, et donc on redoute ce qui va se passer. Et dans les pamphlets, dans les écrits, dans les pièces de théâtre, on fait beaucoup le parallèle justement entre la situation qu'on a connue au cours du siècle précédent et celle qui risque de se reproduire. Donc voilà un peu le contexte.
Julien Bisson.
C'est aussi une ère de grands bouleversements culturels. Vous avez rappelé les querelles religieuses entre protestants et catholiques. C'est aussi l'ère du développement de l'imprimerie, les grandes découvertes, la possibilité de s'étendre sur de nouveaux continents. Est-ce que tout cela aussi, cette période de grands bouleversements, va influencer l'écriture de Shakespeare, et en tout cas sa vision du monde?
Énormément. Énormément parce qu'il lit beaucoup. On a beaucoup évolué, depuis le moment où un de ses collègues un peu jaloux disait qu'il n'avait pas beaucoup de latin et encore moins de grec. En fait, on sait qu'il a énormément lu, non seulement les chroniques de son pays, mais beaucoup d'ouvrages étrangers, beaucoup d'ouvrages anciens. Et certainement, il écoute aussi beaucoup parce qu'on entend très souvent aussi les réalités quotidiennes, d'abord dans la voix des personnages les plus modestes, ou parfois justement une question essentielle. essentiel est posé par un personnage obscur qui tout d'un coup touche à une vérité profonde. Donc oui, il est très très au courant de tout, j'exagère peut-être, mais en disant en tout cas de beaucoup d'ouvrages qui paraissent à cette époque et qu'il lit très rapidement, par exemple les vies des hommes illustre de Plutarque vient d'être traduit quand il le lit. Et donc tout ça, effectivement, va compter beaucoup.
Dans ce tumulte, dans ce brouillard, est-ce que Shakespeare voit clair et est-ce qu'il développe une pensée politique en propre? Est-ce qu'on peut parler, même pour Shakespeare, de pensée politique?
Absolument. Enfin, en tout cas, si vous me demandez mon avis à moi,
c'est
oui.
C'est à vous que je vais essayer.
Non, mais je veux dire, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Il y a eu, je ne sais plus quel auteur anglais célèbre qui a dit que sa philosophie politique tiendrait dans un dé à coudre. C'est vraiment une ineptie.
Comment est-ce que vous la résumeriez, cette pensée?
Ouf! Je peux pas la. Enfin, j'ai essayé d'être rapide, mais surtout c'est qu'on la voit se développer tout au long de ces pièces. Et c'est pour ça que c'est intéressant de suivre l'ordre dans lequel il les écrit, parce que j'ai cité tout à l'heure Richard II. Il a écrit dans les débuts de sa carrière deux grands cycles de pièces historiques, donc quatre chacune, mais il commence par la deuxième série, c'est-à-dire l'histoire de Henri VI, trois pièces, et Richard III. Et pour des raisons qui sont notamment le risque de censure, à la fin de Richard III, on arrive au seuil du présent et donc l'avènement des Tudors. Et on sait que la reine Élisabeth défend farouchement qu'on approche des mystères d'État, comme elle les appelle. Et il y a eu plusieurs faits de censure très, très connus. Donc prudemment, la question qui se pose au cours de ce premier cycle et qui n'est pas résolue, c'est comment est-ce qu'on exerce le pouvoir face à la violence qu'il faut maîtriser. Il y aura les réponses de Machiavel, que Shakespeare connaît. L'a-t-il lu directement? Je n'en sais rien, personne n'a pu l'établir. Mais il le connaît manifestement et il l'a bien compris.
Alors commençons par cela, Dominique Guablanquet, et par Richard III en particulier que vous avez mentionné. Chacun établira les concordances des temps qu'il souhaite avec le temps présent. Dans une mise en scène jouée par Thomas Joly au Théâtre de l'Odéon, c'était en 2016.
Puisque les cieux ont ainsi façonné mon corps, que l'enfer fasse mon âme difforme pour y répondre, puisque cette terre ne m'offre d'autre joie que celle de commander, de réprimer, de dominer quiconque est mieux fait de sa personne que moi, mon ciel à moi sera de rêver à la couronner tant que je vivrai, de tenir ce monde pour l'enfer, tant que la tête qui surmonte ce tronc contrefait ne sera pas sainte d'une glorieuse couronne. Et pourtant, je ne sais comment obtenir la couronne, car bien des vies s'interposent entre moi et le butin. Et moi, comme l'homme égaré dans un bois épineux, qui déchire les épines et que les épines déchirent, qui se cherche un chemin et s'écarte du chemin, et ne sachant comment parvenir à découvert, se débat désespérément pour y arriver, je suis tourmenté de ce désir de saisir la couronne d'Angleterre et de ce tourment. Je veux me libérer. Tu sais, je me frayerai un chemin avec une hache sanglante.
Alors, Dominique... présence, Julien Bisson.
Dominique Guablanquet, Richard III n'est pas la pièce la plus connue de Shakespeare, ce n'est pas Hamlet ou Roméo et Juliette, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelle est l'intrigue de cette pièce pour mieux qu'on comprenne ce personnage de Richard III?
Alors si je peux commencer un tout petit peu avant, parce que vous avez pris un exemple très intéressant, ce que Thomas Joly a fait, parce qu'il a été... Je crois qu'il est le premier à avoir joué intégralement le premier cycle. Donc, trois parties de Henri VI et Richard III. Donc, Richard III, il apparaît dans la troisième partie, à peu près au milieu de la pièce. Et au départ, alors c'était très intéressant que Thomas Joly joue la série complète, parce que au départ, c'est un fils loyal. Il combat pour son camp, les York, mais ses frères sont les premiers à trahir leur camp par égoïsme. Et à ce moment-là, il fait sa déclaration de sortie. Il n'a plus de frère, il n'est comme aucun frère. Et il va systématiquement marcher vers la couronne. Alors, au début de Richard III, sa famille est victorieuse, son frère a été couronné, et il annonce tout de suite qu'il va les éliminer les uns après les autres. Et il annonce aussi qu'il va renvoyer Machiavel à l'école. Et c'est très intéressant qu'il cite Machiavel à ce moment-là, parce que ce qui s'est passé avant lui, donc la guerre civile que j'évoquais tout à l'heure, elle vient du fait qu'il y a eu une défaillance du pouvoir royal. Henri VI était un roi très chrétien, très vertueux, qui appliquait les règles de l'Évangile. Et il est, on dirait que Shakespeare illustre la leçon de Machiavel. La vertu, la religion n'ont rien à faire dans la sphère politique. Et au contraire, elles peuvent être destructrices. Et c'est effectivement ce qui va se passer, parce que comme Henri VI est incapable de maîtriser l'anarchie qui va aller croissant, il va laisser grandir quelque chose qui va finalement donner naissance à cette espèce de monstre qui raconte à un moment donné qu'il a été vomi par les entrailles de la terre. Et il est vraiment le... Pardon ?
Non, parce qu'il faut dire effectivement que Richard III est un roi, un souverain qui a du sang sur les mains. Il est à l'origine de meurtres nombreux, de meurtres d'enfants. Julien Bisson.
Oui, on a entendu cette tirade. J'aurai la couronne, dussé-je me frayer un chemin avec une hache sanglante. Est-ce que ça veut dire que c'est le pouvoir qui construit la monstruosité, ou est-ce que ce sont les monstres qui veulent le pouvoir ?
Le pouvoir est monstrueux. C'est ce que semble dire l'absence de pouvoir qu'exerce Henri VI, parce que c'est ça, justement, qui va faire que tout l'édifice va s'effondrer. Le Parlement, les juges. Richard III va arriver sur ce terrain qui est déjà miné. Et donc, au début de la pièce, tout le monde pourrait être tranquille et fêter la victoire, mais il a déjà ce projet et il va méthodiquement, justement, alors éliminer des membres de sa famille qui sont sur son passage. Mais à noter quand même ce qui apparaît quand on voit les pièces précédentes, c'est que tous les crimes qu'il commet, son entourage les a déjà commis. On a déjà assassiné un enfant dans la pièce précédente. On a décapité un homme en lui tendant un mouchoir trempé dans le sang de son fils. Enfin, on a déjà tout eu. Et il est un petit peu comme la concentration de toute cette violence qui arrive, qui est couronnée. Et à partir de là, donc tout le système autour de lui est corrompu. Il a une éloquence magnifique, il a de l'humour, il bouscule tous les protocoles et il arrive à retourner tous les arguments, à démasquer les hypocrisies aussi, ce qui fait qu'on a de la sympathie pour lui et que finalement il rend le public lui-même complice justement de ce qu'il est en train de diffuser dans son royaume. Donc il va arriver au sommet du pouvoir et dès qu'il est en haut, la chute va commencer. Et c'est illustré, il y a eu un livre qui a eu énormément de succès au moment où les pièces historiques sont devenues populaires en France et un peu connues, c'est le livre de Yann Cott qui emploie l'image du grand escalier de l'histoire. Quand on arrive en haut, on ne peut que dégringoler. Et il l'empruntait en fait à une mise en scène allemande. Ce sont les marches, les Jessnertreppe, que Richard dégringolait effectivement au fur et à mesure de sa chute, parce que il est l'antithèse absolue d'Henri VI, le roi chrétien, mais il va reconstituer, c'est un peu comme si le mal créait ses anticorps, il va reconstituer l'union du royaume et cette union va permettre l'avènement donc d'un homme qui est pur de tous les crimes. Alors c'est Richemont, c'est le futur premier Tudor, sauf qu'on ne dit jamais comment lui il va faire avec les vertus chrétiennes qu'il défend pour éviter ce qui s'est déjà produit. Et c'est ça, je pense, qui va être le sujet du développement de la suite. Shakespeare ne peut pas continuer à étudier la façon dont Henri VII, qui n'était pas du tout un personnage admirable, au contraire, donc il est hors de question qu'il explore les méthodes qu'il a employées pour se maintenir en place. Il remonte en arrière à Richard II, qui est le début de la crise.
Il y a cette thématique, hein, vous l'avez dit, explicitée, de la monstruosité qui parcourt notamment cette pièce de Richard III. Il y a aussi, quand on se plonge dans les pièces d'Hamlet, la question de la folie. Et c'est notamment présent, hein, je pense, dans Macbeth, puisque cette folie qui, j'allais dire, habite le souverain, qui habite l'entourage du souverain également. Est-ce que dans la pensée de Shakespeare, il y a l'idée selon laquelle, d'une certaine façon, le pouvoir peut participer à rendre fou, en tout cas du moins à enclencher certains accès de folie?
Je ne sais pas si c'est ça qui rend fou. Macbeth ressemble beaucoup à Richard III. C'est le même parcours. Au départ,
absolument,
c'est un guerrier parfaitement honorable. Et en effet, la perspective, à partir du moment où, où on lui dit cette révélation, qui n'en est, cette prophétie qui n'en est pas une en réalité, parce que le public sait déjà tout ce qui s'est produit, et la réalisation de la prophétie, elle dépend de lui. S'il décide de tuer le roi, il arrivera peut-être à devenir roi. Alors, l'ambition est une forme de folie. Et ce qui arrive à chaque fois, en tout cas au moins dans les ouvrages de Shakespeare, c'est que celui qui arrive au pouvoir et qui devient un tyran, ne peut pas se maintenir, il n'aura pas d'héritier, il n'aura pas de successeur. Parce qu'il y a le même phénomène dans Macbeth, c'est-à-dire cette espèce de sursaut de la nature. On l'entend d'ailleurs dans les images du texte, les fluides qui commencent à recirculer, la végétation qui repart. Donc oui, le pouvoir, surtout quand il a été conquis de cette manière, parce qu'il y a quand même... il y a quand même des exemples de bons souverains, mais il n'y en a pas beaucoup. En général, soit ils abandonnent, ils ne se mouillent pas trop pour imposer leur volonté, soit effectivement ils oublient toute mesure. C'est quelque chose d'autre que dit Machiavel, c'est justement que comme les êtres humains, les sociétés, les cultures, le pouvoir ne peut que décliner. Il est très marqué, parce que c'est un homme ultra-moderne par la pensée, mais il est très marqué par la pensée antique. Et donc, pour lui, tout gouvernement est destiné à décliner. On ne peut que le retarder. Et tous les moyens sont bons pour cela.
On va venir un peu plus tard à une pièce antique, justement. Mais avant cela, Julien Bisson.
Oui, l'autre grand fil rouge dans l'œuvre de Shakespeare, c'est la question de la légitimité du pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est en mesure de pouvoir gouverner les autres ? Comment est-ce que ça se pose, cette question, notamment dans Richard II ?
Alors, dans Richard II, lui n'avait au départ aucun problème. Il est d'une légitimité impeccable. Il est le petit-fils d'Édouard III, grand roi victorieux qui nous a battus à Crécy. Il est le fils du prince noir qui a ravagé l'Aquitaine. Donc, sa légitimité, elle est indiscutable. Mais il va la remettre en jeu et la perdre parce que, d'abord, la pièce commence comme ça, par la préparation d'une ordalie. Une ordalie, c'est un jugement de Dieu, c'est-à-dire un combat armé. Celui qui gagne est celui qui disait vrai. Et Richard ne peut pas se permettre de laisser ce combat s'accomplir parce qu'il est lui-même complice de l'assassinat de son oncle. Donc lui-même a transgressé de manière inacceptable. On compare ce meurtre à l'ubris d'une des fioles de sang royal, les sept fioles qui étaient les sept fils d'Édouard. Donc il y a cette première chose. Et puis il s'aliène tout son royaume par des excès, par des extorsions. Il y a eu sous son règne, l'épisode a été utilisé par Shakespeare dans une autre pièce, il y a eu ce qu'on a appelé la révolte des paysans, qui a été déclenchée par une taxation nouvelle par capitation. Et il y a eu cette flambée de violence. Et c'est en dépouillant son cousin de son héritage qu'il va lancer justement le mouvement de rébellion. Le cousin va revenir pour revendiquer sa terre et ne s'en contentera pas. Et l'un des commentateurs de l'époque dit qu'on lui reproche en particulier justement d'avoir pris l'argent de ses sujets et on lui reproche ça parce que leur sympathie est au fond de leur bourse.
Mais qu'est-ce qui fonde alors la légitimité du pouvoir selon Shakespeare ? Est-ce que c'est, j'allais dire, une forme de compétence politique, comme vous l'avez dit un peu plus tôt s'agissant de Richard III, la capacité à parler, à s'exprimer, à convaincre, à tordre les arguments des autres, ou bien c'est tout autre chose, c'est le sang, l'héritage, l'endroit d'où l'on vient, d'où vient cette légitimité ?
Idéalement, c'est ce qu'on voudrait. Il y a des portraits traditionnels, il y a beaucoup d'écrits d'ailleurs justement sur la nature de la monarchie, où il y a d'abord la manière dont on a obtenu le pouvoir, si c'est par héritage. Mmh. Ensuite, il y a la manière dont on l'exerce, selon la justice, le droit, etc. Et enfin, dans l'intérêt de qui ? Est-ce que c'est pour le bien commun ? Ça, c'est une notion très importante qui revient souvent, le commonweal, qui est aussi le commonwealth, la richesse commune. Et est-ce que c'est donc pour l'intérêt de tous, ou est-ce que c'est pour soi-même, pour son entourage, etc. Et donc, idéalement, le roi répond à ces trois critères. Sauf que dans la pratique, alors, Henri VI lui-même n'était pas héritier légitime du pouvoir. Il est le fils de son père qui a conquis sa légitimité, Henri V, par un équilibre justement extrêmement... C'est aussi une pièce, c'est la dernière de la série. Il a réussi à conquérir son autorité, d'abord en suivant le conseil de son père, qui a eu des rébellions pendant tout son règne, c'était l'usurpateur. Lui, au moins, est le fils d'un roi. Son père lui dit, si tu veux avoir la paix, emmène les esprits agités faire la guerre à l'étranger. Ce qu'il va faire, il va à Azincourt, il sera victorieux, mais surtout il va être un Machiavel avant la lettre, parce qu'il va soigneusement diviser le public et le privé. Parce que Richard III échoue parce qu'il a piétiné tout ce qui était justement la tradition, les principes, alors que Henri V va... à titre privé, avoir une conduite irréprochable, être magnanime, généreux, vertueux, mais il y a la machine de l'État qui est implacable. Et il le dit très nettement, à un moment où il y a eu une conjuration, il pardonne les fautes contre sa personne, mais ceux qui ont porté atteinte à la sécurité de l'État sont exécutés absolument sans état d'âme. Donc il sécularise le pouvoir.
Et la figure du peuple, alors,
Julien Bisson. On parlait tout à l'heure des révoltes paysannes. Quelle place est donnée au peuple dans le paysage politique dessiné par Shakespeare ?
C'est une populace, pendant très longtemps, en tout cas, dans les pièces où il les fait intervenir. Mais il n'est pas le seul, parce qu'il y a justement tellement de mauvais souvenirs du passé. Alors, la pauvre populace, elle a été aussi enrôlée dans les camps des combattants. On a des scènes extrêmement pathétiques où un père a tué son fils, fils a tué son père parce qu'ils étaient dans des camps rivaux, mais elle est représentée en général comme une foule versatile, dangereuse. Dès qu'il y a plus de 5 personnes qui se réunissent, c'est une menace. Et ça, c'est, je ne vais pas dire unanime, mais enfin, c'est répandu dans toute la littérature de l'époque.
Comment est-ce que vous expliquez, au fond, l'actualité de Shakespeare qui demeure à ce point, je le disais en introduction, deux pièces à Paris de Shakespeare qui sont jouées actuellement dans deux théâtres différents. Est-ce que c'est parce que ces têtes couronnées nous intéressent parce qu'elles nous enseignent toujours autant de choses sur le pouvoir et la nature humaine, ou bien ce sont simplement ces scénarios, ces histoires auxquelles on demeure accroché ?
Ce sont des histoires formidables. Racontez-les à un enfant, d'ailleurs certains écrivains l'ont fait, comme Charles Lamb, ça marche à tous les coups. Ce sont de très bonnes histoires, mais en plus, bon, si j'essaye de développer tout ce qui fait que Shakespeare est passionnant, il y a la langue qu'il utilise, qui nourrit encore la langue anglaise actuelle, avec je ne sais pas combien de mots qu'il a créés. Il y a l'étendue des sujets qu'il traite, le fait qu'il ne s'éloigne jamais complètement justement du prosaïque, du quotidien, qu'il est capable à la fois de tenir les deux extrêmes. Et il y a l'envolée lyrique parfois, il y a l'humour, il y a des choses... Hamlet n'est pas la pièce la plus rigolote qui soit, mais il a un sens de la répartie qui fait que oui, souvent on rit. Donc ça aussi, c'est important.
Julien Bisson.
L'enfer est vide, tous les démons sont ici, c'est ce qu'écrit Shakespeare dans La Tempête. Est-ce que le monde de Shakespeare n'est qu'un monde sombre, ou est-ce qu'il y a de la place pour l'idéal ?
Alors, oui, mais La Tempête que vous décrivez, c'est une illusion, justement, là, parce que c'est un magicien qui a créé cette fausse tempête pour rétablir un certain ordre, et qui va être, vous citiez tout à l'heure le lointain et proche, c'est Richard Marienstrasse qui avait utilisé le terme « le machiavélisme du bien », qu'il associait justement à Prospero, qui va essayer de reconstituer un monde où il y a de la place pour l'espoir, où il y a de la place pour sa fille et son futur gendre, et pour de nouveau un équilibre. Alors, On a certaines pièces qui se terminent, comme le roi Lear, d'une manière totalement désespérée. Tous les innocents ont payé pour des fautes qu'ils n'avaient pas commises. Et il ne reste pratiquement personne pour renaître. Les pièces historiques, encore, il y a un monceau de cadavres, un mariage et l'espoir d'une société meilleure, avec beaucoup de scepticisme quant à cette possibilité.
Merci beaucoup Dominique Guablanquet pour ces explications, pour cette plongée dans les œuvres et la pensée politique de Shakespeare. Et merci à vous Julien Bisson. Qu'est-ce que l'on retrouve cette semaine dans l'hebdomadaire Le 1? Il me semble que vous parlez de politique et de pouvoir également.
Oui, de crise politique. Comment Macron a perdu la France en pleine crise et alors que la popularité du président est au plus bas, retour sur 8 années qui ont creusé la fracture entre les Français et lui.
Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Roxane Paulin, Rodi Eken à la réalisation ce soir, c'était Léa Racine.